Les pieds sur terre, Sonia Krenlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Alors c'est comme ça que les choses arrivent.
On s'est demandé ce que le numérique a changé dans nos vies. L'amour, au temps des smartphones, sur Tinder, Grindr et autres applis de contact cool et rapide. Des murs d'escalade en réalité augmentée, des robots collaboratifs, des exosquelettes, des foies en 3D. Des jumelles aussi, pour que les soldats sur le champ de bataille accèdent à des statistiques vitales. Zoom sur des images capturées par des drones espions, passe d'une caméra embarquée à une autre, profite d'une vue sur plusieurs angles d'une même cible. Et même les lunettes, figurez-vous, seront bientôt ringardes, puisque l'armée américaine s'intéresse de près à une nouvelle technologie, destinée pour l'instant à ses soldats, des lentilles de contact avec système d'affichage intégré. Une ambiance qui fait rêver ou cauchemarder, entrevoir un futur à la Philip K. Dick, où on s'agiterait, comme Tom Cruise dans Minority Report, avec interface tactile, corps augmenté et puce pour nous localiser. Mais heureusement, en attendant, ce sont aussi des nouvelles technologies pour nous aider. Fauteuil roulant intelligent, vision sonore, écran tactile pour non-voyants, ce que le numérique a changé dans nos vies, la réalité augmentée, c'est jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, par Leïla Djitli.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je suis Virginie et maman de 4 enfants, Rosie, Louise, Maxence et Léopold. Nous habitons près de Bourgoin-Jallieu en Isère. Alors Maxence est le 3e enfant de la famille. Il est né le 7 décembre 2008. Voilà, avec sa petite particularité que nous avions découverte lors d'une échographie pendant ma grossesse, puisque Maxence est né sans sa main droite. Dès le début, en fait, j'ai ressenti, je disais à tout le monde, il y a quelque chose qui est différent. Certes, c'est resté comme ça. Je suis arrivée à l'échographie et j'ai dit à l'échographiste, pour celle-ci de grossesse, j'aimerais bien connaître le sexe. Et au bout d'une demi-heure, en fait, elle nous a dit que c'était un petit garçon. Donc, on était contents après deux petites filles. Et puis, à partir de ce moment-là, elle a recommencé à nouveau toute son échographie. Et en fait, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Et elle m'a dit, ben, je vérifie parce que je vois pas très bien les mains. Donc, elle a tout revérifié. Et en fait, elle a fait organe par organe. Elle a recommencé, voilà, le cœur, ça va bien, le cerveau, les reins. Et puis, elle en est venue aux membres et notamment aux mains. Et puis, elle a dit, ben, la main droite, je la vois pas, je vois mal. Elle est pas comme l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a pas de main de ce côté-là. Mais il faudra faire une échographie de contrôle dans une semaine pour vérifier ça. Donc, le diagnostic a été posé là. J'ai vécu le choc de l'annonce, on va dire. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible, un bébé sans main, mais comment il va faire? Enfin. Et puis finalement, petit à petit, donc on a remonté la pente entre guillemets, et puis, bah, on a commencé à s'imaginer ce petit bébé en tant que tel. Voilà. Après, il y a des petites choses où au début, enfin, souvent sur les petits pyjamas, il y a écrit 50% papa, 50% maman, 100% bébé. Et en fait, j'avais vu ce pyjama et je m'étais dit ah non, bah je peux pas l'acheter pour Maxence parce que 100%. Il est pas là à 100%. Donc, enfin, c'est une image, mais effectivement, dans les magasins, quand il y avait ces petits pyjamas ou ces bodys, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, en tout cas, en première intention, pendant que j'étais enceinte. Et puis, Maxence est né. Donc, la première chose que j'ai vérifiée, c'est que c'est un petit garçon. Et j'ai regardé tous ses membres, en fait. Voilà. Donc, effectivement, et il avait cette petite main qui était là. Donc, j'ai continué à pleurer. Et puis après, je l'ai pris avec moi, je l'ai allaité. Et puis, c'était mon bébé, quoi. Enfin, voilà, il était là et à côté de moi. Et voilà, comme pour les autres.
Depuis que Maxence est né,
Vers l'âge de 9 mois, nous faisons partie d'une association qui est américaine, Enable, et qui fabrique des mains imprimées en 3D pour des enfants ou adultes qui ont une agénésie ou qui ont une amputation. Et donc nous, on a demandé à Maxence si ça l'intéressait d'avoir ce type de main imprimée en 3D. On lui a montré ce que c'était sur Internet. Il a vu les enfants américains, en l'occurrence, qui recevaient ce type de main. Et donc lui, il a dit « Ah oui, moi j'aimerais bien en avoir une comme ça, mais moi j'en veux une à moi et qui soit faite. C'est moi qui décide quelle couleur elle est, ce qu'il y a dessus et tout. » Donc les choses se sont faites petit à petit avec Enable pour pouvoir fabriquer cette main de super-héros, entre guillemets, imprimé en 3D. Alors, donc, une fois ces couleurs choisies et tout, nous avons aussi pris des mesures. Ça se fait tout à distance, en fait. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, des photos, des deux mains de Maxence pour faire le dossier. Donc, c'est vraiment un échange, par les nouvelles technologies, Internet, vidéo, par téléphone aussi. C'était à distance et là, on l'a fait entre Cessieux et Paris, mais ça peut être fait, finalement, d'un bout à l'autre du monde puisque c'est vraiment, par connexion interposée. Et donc, elles peuvent être envoyées par la poste et que l'enfant la reçoive par la poste.
Bon, est-ce que vous voulez me montrer la main de Maxence ?
Je peux la montrer, Maxence ?
Ah, voilà. Elle est jolie. Quelle couleur ?
Elle est jaune, orange, rouge, bleu foncé et il y a un M.
Et M pourquoi ?
Super Max.
Super Max.
Hey Maxou.
Aïe.
Donc c'est un plastique dur, un petit peu comme les Lego, effectivement, aux couleurs, des couleurs vives d'enfant. On l'enfile comme un gant, s'il doit la garder longtemps, mais une petite chaussette en dessous. C'est un scratch, donc ça fait quand même un petit peu mal, mais bon, finalement. Quand il a envie de la mettre, il la met, il l'enlève. Cette main-là, elle permet pas une motricité fine, elle permet pas de jouer du piano, elle permet pas forcément de tenir un stylo. Du coup, il écrit de la main gauche. Le plus, il est surtout psychologique plus que moteur. C'est pas une prothèse médicale, c'est vraiment autre chose. C'est un petit peu, pour Maxence, c'est un petit peu un jeu. Lui, il la voit comme un jeu. C'est son nouveau jouet, comme il utilise un autre jeu issu de la nouvelle technologie. Alors, Maxence, il vient d'avoir 7 ans, là, le 7 décembre. Donc, il est scolarisé en CE1 à l'école de Cessieux. Quand il l'a utilisé à l'école, il l'utilise pas tout le temps. Des fois, il l'apprend, des fois, il l'apprend pas. Quand ses copains lui disent « Ah, tu me l'as fait essayer ?» Non, ça, c'est que à moi. Et t'avais qu'à naître avec une petite main si t'en veux une. C'est que pour les enfants qui ont une petite main.
Voilà, je suis devant mon ordinateur, je lance le logiciel d'impression. Dans ce logiciel, je vais charger un modèle 3D. On va fabriquer une phalange de doigts. J'ai mon bout de doigt qui s'ouvre dans mon logiciel, donc on le voit ici, je peux zoomer dessus. Voilà le dessin initial de Maxence. L'impression 3D se fait couche par couche. On fabrique l'objet en ajoutant de la matière en couches successives, un peu comme des lasagnes en fait. Donc maintenant je vais vers l'imprimante et je vais placer dans l'imprimante le bout du filament en plastique. Et je vais pouvoir maintenant déclencher l'impression et on va avoir du plastique fondu qui va se déposer en couches successives sur le plateau de l'imprimante. Et maintenant je lance l'impression. Je suis Thierry Okidam, je suis informaticien de métier et je suis maker pour l'association Enable. Un maker, c'est un bricoleur de l'ère numérique. J'ai fabriqué la main de Maxence. Maxence voulait une main de super-héros, donc on lui a fait une main de super-héros aux couleurs qu'il a lui-même choisies. Alors, en fait, je propose aux enfants de dessiner la main de leur rêve. Et Maxence était parti sur une main Spider-Man ou Batman. Et puis finalement, il a réfléchi et il a dit à ses parents, mais c'est pas moi ça. Moi, je suis Super Max. Donc il a fabriqué sa main de Super Max. Il a fait un dessin coloré avec toutes les couleurs, plus le logo avec le M de Super Max. Voilà. Et il a pris soin de m'indiquer, ça c'est turquoise, ça c'est vert, ça c'est jaune. C'était très précis.
Donc vous avez reçu ça par mail ?
Voilà, par mail. Et puis du coup, bah, j'ai pu faire la mise à l'échelle. J'ai imprimé un premier prototype sans couleur, tout noir. Donc pas joli, mais juste pour vérifier la dimension, le confort, je leur ai envoyé. Et une fois qu'on a eu confirmation que c'était bien, j'ai fabriqué la main définitive. Il y a quelque chose qui est fascinant dans ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique l'objet qui est peut-être le moins technologique qu'on puisse imaginer, puisque c'est une main mécanique actionnée par des fils de pêche et des élastiques de mercerie, et on fabrique cet appareil en utilisant toutes les technologies de pointe du numérique d'aujourd'hui. Sans toutes ces technologies nouvelles liées au numérique, on ne pourrait pas le faire. Début 2014, donc j'avais très envie d'acheter une imprimante 3D, et je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait avec une imprimante 3D ? Ok, je vais imprimer des jouets pour mes enfants, et puis après, une fois que j'aurai fait deux Mickey, est-ce que ça justifie l'investissement, la dépense ? Ce qui m'a beaucoup plu dans le modèle d'Inable, c'est d'une part qu'on utilise l'impression 3D aujourd'hui pour changer le monde un petit peu, mais surtout que tout est entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de commercialisation des appareils. Quand on fait un appareil, la main de Maxence, c'est un cadeau qu'on fait pour un petit garçon. Nous, on fabrique des mains de super-héros, pour des super-héros, et on leur dit « jouez avec, cassez-la, c'est pas grave, parce qu'une main comme ça coûte moins de 50 euros à produire, en coût matériel ». Donc là, on s'est retrouvé en septembre avec 60 demandes d'un coup, et on est en réalité en France actuellement 5 à fabriquer. Et si vous qui m'écoutez, vous avez une imprimante 3D et vous connaissez un enfant qui a besoin, au contraire, allez-y, téléchargez les modèles, contactez-moi pour que je vous donne un coup de main éventuellement pour démarrer, et inscrivez-vous dans l'association, comme ça on saura ce que vous faites, mais allez-y, faites-le, au contraire.
France Culture, les pieds sur terre.
Mettez-vous à l'aise, hein, enlevez votre veste, soyez libre. Hein. Alors, vous vous rappelez comment ça marche ? Vous avez donc les écrans. Alors, pour faire la mise au point, hein, parce que c'est un peu flou, vous faites avec vos doigts, hein, directement ici. Et là, si vous avez l'impression de loucher, vous pouvez rapprocher ou éloigner les écrans, vous voyez, avec cette molette.
C'est le même casque ?
C'est le même casque, tout à fait. Voilà, donc vous mettez le casque, vous avez le casque sur la tête, alors vous serrez. Nous sommes sur la planète Terre, à Marseille, au pôle psychiatrie. Donc, je suis le docteur Eric Malbos, je suis spécialisé dans le traitement des troubles anxieux par exposition à la réalité virtuelle. Il s'agit de thérapies cognitivo-comportementales, donc ce sont des thérapies qui sont brèves et qui sont sur en général 10 à 12 séances. Chaque séance dure environ 40 minutes, donc il faut venir une fois par semaine. Donc le traitement dure grosso modo 3 mois. L'avantage, et c'est pour ça que les patients viennent, c'est parce qu'ils savent que c'est une forme de simulation. Donc ça va ressembler à la réalité, mais ça va moins les effrayer que la réalité. C'est comme une étape intermédiaire entre leur imaginaire et la réalité. Et comme ça, ça leur paraît un peu plus facile. Et donc, du coup, ils osent affronter les situations qu'ils évitent en général dans la réalité. Contrôlez bien que ce soit net. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous demander quel environnement vous voudriez utiliser. On peut faire le métro si vous voulez, on peut faire l'ascenseur, on peut faire l'avion. C'est à vous de me dire ce que vous voulez faire aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'aéroport, mais doucement.
Alors, donc, je vais lancer le logiciel des environnements virtuels. Je choisis l'avion, je confirme, et on y va.
Quand j'ai mis le casque, la première fois, j'ai dit « Bonjour Nadia, on y va ». extraordinaire. Alors là, je me sentais dans un autre monde. Après, je disais, oh docteur, où je suis? Il m'a dit, qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez marcher avec votre manette? Alors il me réglait la manette. Il m'a dit, c'est pas la peine de bouger. Vous bougez, vous allez marcher avec la manette. Et c'est là où j'avançais. Après, je me suis habituée, c'est normal, après plusieurs séances. Mais la première fois, j'étais contente. Mais je voyais, tout était facile pour moi. C'est pour ça que je reviens à chaque fois vers le docteur. Je lui dis, docteur, il faut qu'on avance. Je suis curieuse de me voir comment je vais devenir.
Voilà, vous voyez la grande porte, très grande porte d'entrée. Vous pouvez rentrer, le sas ne se ferme pas et vous pouvez redescendre tout de suite.
Ah, déjà une étape très importante, c'est ce que je voulais.
Et après, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux choisir le nombre de personnes qui sont dans l'avion.
Moi, j'ai envie d'affronter la foule.
Oui, on va faire étape par étape. Hein. Faut pas commencer tout de suite par quelque chose de trop difficile. Hein. Ce sera pas très constructif.
D'accord.
Au bout du couloir, cela descend. On arrive au sas qui mène à la cabine de l'avion.
Attends, je vais regarder encore.
Voilà. Ici, quel est votre niveau d'anxiété de 0 à 100?
Ah non, je dois arrêter là. Il y a 70%, hein, docteur. Je ne peux pas aller tout dans ce couloir-là jusqu'au bout.
Alors dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est une première étape. Ne rentrez pas, parce que 70, c'est un peu trop. Reculez. Voilà. Il faut faire la relaxation respiratoire.
Non, je préfère se ressortir,
voilà.
Docteur.
Très bien. Allez-y.
Je dois trouver une issue le plus vite possible, sinon...
Voilà, donc il vous suffit de descendre et vous allez avoir accès directement. Et on voit le soleil, on voit la lumière. Vous voulez encore plus loin?
Moi, je veux sortir complètement.
Vous avez la porte juste à gauche si vous voulez sortir. Hein. Oui, elle est grande ouverte. Voilà, ça y est.
Ouf! Je vous assure, j'avais des battements de cœur.
Allez, enlevez le casque.
Je m'appelle Nadia, j'ai 53 ans. En 2003, le 21 mai 2003, vers 19h45 à peu près, la terre a tremblé et j'ai été ensevelie dans la terre, ensevelie dans les décombres. Et j'ai développé beaucoup d'angoisse en ce moment-là. C'était en Algérie, à 60 km d'Alger. C'est le printemps, après une belle journée passée au bureau. Ce jour-là, j'ai travaillé longuement, j'ai beaucoup travaillé, je rentre très très tard. Et après avoir fini ma journée, vers 19h45 à peu près le soir, je rentre à la maison. Je passe par mes voisines qui étaient dans le hall de l'immeuble en train de discuter, c'est des femmes au foyer. Elles m'ont souri, elles m'ont dit bonjour madame. J'aimais beaucoup, c'est des femmes très très aimantes. Elles aimaient bien mon voisinage. Et quand je suis rentrée, je commençais à préparer le repas. J'ai dit, mes enfants sont venus, m'ont dit, mon maman, on a des contrôles. Est-ce qu'on les fait maintenant ou après? Je leur ai dit, allez jouer un peu dans la cour. Je vais vous faire un petit signe dès que j'aurai préparé à manger. Et ils sont partis dans la cour. Je les voyais déjà courir avec les vélos et tout. Et je rentre dans la cuisine et j'entends un craquement. Je me suis dit, c'est quoi ça? Alors j'ai vu le mur se casser, faire crrr, comme ça, se casser en deux. Je n'ai pas eu le temps de regarder le sol et je suis partie directement au fond de... J'ai même passé la cave parce que tout s'est effondré comme un château de cartes. La terre nous tirait vers le bas.
J'entendais que du bruit, des cris, tout. Et mes voisines, elles criaient et je me suis dit, mon Dieu, c'est la fin du monde. Et mes voisines, quand je les ai entendues dire au revoir et pardonne-moi si je t'ai fait du mal, pardonne-moi si je t'ai dit de mauvaises choses, si je meurs, on se reverra au-delà. Après, elles se taisaient l'une après l'autre. Elles étaient mortes, elles se sont tues l'une après l'autre. Elles étaient quatre. Je me suis dit, c'est mon tour. Donc moi je suis restée comme un enfant dans le ventre de sa mère. J'étais très serrée dans les décombres, dans les pierres. J'étais dans le noir. J'avais trop mal. Je me parlais comme si je parlais à une deuxième personne. Nadia, tu résistes ou tu pars? Alors, je me battais psychologiquement et je sentais mon corps se refroidir parce que je saignais de la tête, de mon pied, de mon ventre. Après, je me suis dit, je suis morte, je suis dans ma tombe. Alors, j'ai commencé à crier, au secours! Est-ce que je suis morte? Répondez-moi. Et ça bougeait. C'est là où j'étais secouée. C'est comme si que quelqu'un me disait, non, tu n'es pas morte. Tu es dans les décombres. Tu es sous la terre. Tu es enterrée vivante. Et c'était les répliques après le séisme. Et là, je suis restée 3 jours, 2 nuits sans bouger. Les habitants, avec leurs modestes moyens, parce que l'électricité s'était coupée, l'eau était coupée. Alors, il y a des gens qui sont venus avec leur voiture et allumer leur phare. La pluie, elle a commencé à tomber. Il y avait un mauvais temps. Mais moi, j'étais là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait en haut. Et j'ai commencé à sentir des coups de pierre, des battements de marteaux, de tous les moyens qu'ils avaient pour arriver jusqu'à moi. Et j'ai entendu mon mari qui disait, Nadia, on te localise. Je sais que tu n'es pas trop loin. Ne pars pas, résiste. Résiste, tiens peu, on arrive. Et là, j'ai vu une lumière. Ils ont mis une torche. Et quand j'ai vu la torche, j'ai vu de la poussière qui arrivait jusqu'à moi. J'ai dit, mais je vous vois. Il y avait un jeune. On lui demandait, vas-y, toi, tu es maigre, tu peux descendre. Et quand il est descendu, on le retenait d'en haut. Il a touché ma tête. Il m'a dit, qu'est-ce que je touche, madame? Qu'est-ce que je touche là? J'ai dit, c'est ma tête, vous me faites mal. Il m'a dit, je reviens. Et après, ils ont élargi le trou. Après, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas bouger le pied parce que je sentais que j'avais plus de sang. J'avais que la tête qui bougeait. Et c'est là où je me suis dit, je ne pourrai pas. Après, j'ai commencé à stresser. C'est là, le stress, il a commencé. Je criais jusqu'à ce que je me suis évanouie. Et 3 jours ou 4 jours après, je me suis réveillée dans un hôpital. Et j'ai développé beaucoup d'angoisse en ce moment-là. J'ai des crises de panique, je n'aime pas l'enfermement, je ne prends pas d'ascenseur, ni tram, ni TGV, tout ce qui est fermé, je bloque et je fais peur même aux personnes qui ne comprennent pas cette maladie. Et c'est devenu une vie pourrie. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un traitement. Et j'ai cherché, j'ai trouvé Dr Malbos.
Ça va mieux depuis que vous venez là?
Ah oui, beaucoup mieux. Avant, je ne m'aventurais pas, c'est-à-dire dans une ruelle que je connais, non, je ne m'aventurais pas. Là, maintenant, je me dis, Nadia, tu vas y arriver, n'aie pas peur, il ne va rien se passer. Là, ça va. Et je suis prête à aller plus loin avec la science pour m'en sortir.
We sit in the car outside your house. I can feel the heat coming round. I go to put my arm around you and you give me a look like I'm way out of bounds. Well, you let out one of your both sides and Lily, when I look into your eyes, I'm going down, 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 down. I'm going down.
C'était Les Pieds sur Terre, ce que le numérique a changé dans nos vies, la réalité augmentée. Un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de François Connac et diffusé pour la première fois en janvier 2016. Merci à Thierry Okidam, bricoleur numérique de la communauté Enable, aux frères et sœurs de Maxence, Rosie, Louise et Léopold, et leurs parents Virginie et Eric. Merci au docteur Christophe Lançon, chef du service du pôle psychiatrie de l'hôpital de la Conception, au docteur Eric Malbos et à Nadia Nigman. Quant à l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est toujours Mélissa Foust. Drive me wild, but lately, girl, you get your kicks from just